Bonjour à tous. Nous allons partager quelque chose de la parole de Dieu ce matin ensemble. Et pour le troisième dimanche successif, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Le récit du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël qui est fait dans la Bible, se termine par deux livres. Les deux relatent des reconstructions après que Jérusalem et son temple aient été rasés et que la population ait été totalement déportée. C'était une sanction que Dieu avait prononcée contre son peuple en raison de son infidélité et de son idolâtrie persistante. Dans un premier livre, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem, qui avait pour les Juifs un sens vraiment très particulier. Je vais y revenir dans quelques instants. Et la restitution du culte rendu à Dieu dans ce temple qui est relatée, c'est tout l'objet du livre d'Esdras, pour resituer les choses. Et dans un deuxième lieu, quelques années plus tard, c'est la reconstruction de la muraille de l'enceinte de la ville de Jérusalem qui est relatée dans un dernier livre qui clôt l'histoire du peuple d'Israël, relatée dans la Bible. C'est le livre de Néhémie qui relate ce récit. Et c'est un texte dans le livre de Néhémie que j'ai choisi. Dans ces deux livres, ce sont bien plus que des reconstructions dont il est question. Ce sont véritablement des parcours spirituels dans lesquels s'inscrivent les événements qui sont racontés. Ce sont des défis spirituels auxquels le peuple d'Israël a besoin de faire face, de défier des oppositions multiples, sournoises, qui entourent le peuple, une manifestation de l'adversité, de l'adversaire contre ce peuple qui va être celui qui va donner naissance à Jésus-Christ, le Messie, 400 ans plus tard. C'est aussi lutter contre le découragement avec le but, et c'était le sens de ces reconstructions, que la gloire de Dieu dans son temple se perpétue au milieu d'un peuple saint et qu'elle rayonne à la face du monde. Que la gloire de Dieu se perpétue au milieu d'un peuple saint et qu'elle rayonne à la face du monde. En somme, l'histoire de ces deux livres constitue une belle image de l'œuvre que Dieu poursuit maintenant, et c'est la page qui est tournée vers le Nouveau Testament, avec son Église, un édifice que Christ lui-même construit dans le but que nous le servions et que nous le glorifions sur cette terre et que nous puissions rendre un témoignage au monde de sa grandeur et de la grandeur de son amour pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous avons fait au cours de ce temps de louange ce matin. Et en vous disant cela, je donne un petit peu l'angle sous lequel il faut voir un peu ces deux livres, l'un comme l'autre, Esdras et Néhémie, qui contiennent des leçons pour nous aujourd'hui dans ce qui concerne l'Église. Nous sommes appelés à contribuer les uns et les autres à cette construction de l'Église. Et dans ces textes que nous allons voir, nous allons y tirer quelques leçons. Dans ces deux livres, il y a une particularité, c'est qu'à peu près un tiers de la matière du livre, et même plus que le tiers, est constitué par des listes très fastidieuses, des généalogies, des listes de noms de personnes qui nous interpellent bien peu. Et je pense que quand vous lisez la Bible, vous ne passez pas un temps infini sur ces listes et que peut-être vous lisez un ou deux versets au début, puis ensuite on saute à la fin assez rapidement parce que voilà, il y a peu d'intérêt. Ces textes avaient pour but de servir de registre d'état civil, de légitimer le personnel religieux qui, par exemple, allait servir dans le temple et de laisser une trace pour l'histoire, simplement. Si vous n'aimez pas lire ces généalogies, ces textes, eh bien vous allez voir que peut-être nous avons tort. Je m'inclus aussi, parce que j'avoue franchement que de temps en temps, je saute. Nous avons tort. Et il y a des choses intéressantes à retirer de ces textes. On va aller dans le chapitre 3 du livre de Néhémie et on va voir ensemble. Voilà, je l'affiche ici pour ceux qui n'ont pas de Bible. Dans Néhémie au chapitre 3, laissez-moi le temps pour que je ne prenne pas un torticolis en lisant à l'envers, que je trouve le livre. Voilà, J'avais pas mis de marque, j'en mets une. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séma bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia. Et c'est là que Marcel a un petit malaise en se disant « Mais Berekia, c'était un homme, c'était pas une fille, hein, Berekia. » Fils de Metchazabel, à côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. Et à côté d'eux travaillèrent les Tekoïdes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pesahak, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. On va s'arrêter là. Je me suis entraîné tout l'après-midi d'hier pour dire tous ces mots de façon fluide et je ne suis pas allé au-delà, très franchement. Je pense que vous faites comme moi, on arrête là, habituellement. On va reprendre malgré tout, parce qu'on est persévérant, on va reprendre malgré tout au verset 16, je crois, là-haut. Oui, voilà. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Bethshur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, à côté de lui, travailla pour son district à Shabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadab, chef de la moitié du district de Keïla. On s'arrête là. Et ça continue comme ça jusqu'au verset 32. Vous dites, Daniel, t'as vrillé là, tu nous donnes le bâton pour te faire battre à la sortie, pour te dire, mais qu'est-ce que tu nous as proposé ce matin ? Vous n'avez peut-être pas forcément tort, vous verrez à la suite. Quelques remarques sur ces récits. La première chose, c'est que si Dieu a voulu inscrire dans sa parole et nous la léguer, la préserver jusqu'à nous sous cette forme, c'est parce qu'il y a une intention. Et la première que l'on voit ici, c'est que Dieu n'oublie pas ceux qui œuvrent pour lui. Tous ces hommes et ces femmes qu'on voit un peu plus loin dans le texte, qui ont œuvré pour l'Éternel, pour sa ville sainte, pour le temple dans lequel il faisait résider son nom, Dieu a voulu que la liste exhaustive, précise, soit inscrite ici. C'est un petit peu comme pour les généalogies que l'on trouve dans l'Écriture. Et ces listes, il y a ici 40 noms, elles vont jusqu'à l'ennui, bien entendu. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, comme je l'ai déjà dit. Mais Dieu a voulu que se garde le souvenir de ceux qui le servent et que soient listés tous ceux qui ont participé à son œuvre. Dieu aime se souvenir. C'était un des versets que Scott a lu ce matin. Ricardo a lu un autre verset. Dieu, il a laissé la mémoire de ses prodiges et il garde le souvenir de son alliance. Dieu est un Dieu de mémoire et en même temps, Dieu est un Dieu qui oublie nos péchés. Il y a un aspect particulier de cette notion du souvenir. Dieu aime le souvenir de chacun de ceux qui lui appartiennent. Il nous connaît. Il connaît même, Jésus l'a dit, le nombre de cheveux qui sont implantés sur notre tête. Pour certains, c'est vite compté, pour d'autres, c'est plus difficile. Vous avez peut-être l'impression d'être peu concerné par la chose, parce que vous vous dites, oui, là, on est en train de parler de gens qui construisent, etc., qui œuvrent pour l'Éternel, quoi. Ce sont les serviteurs. Et moi, je suis assis sur mon banc ici, je n'ai pas de tâche particulière. Pourtant, rassurez-vous, Dieu garde aussi le souvenir. Le souvenir peut-être simplement de votre fidélité. Le souvenir de peut-être ce qu'il vous coûte d'être là chaque dimanche à louer le Seigneur. Ce qu'il vous en coûte sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan de votre santé. Ce matin, je parlais avec deux sœurs qui me disaient « Oh, ça va comme ça peut hein ». Et elles sont venues ici avec quelques difficultés en lien avec leur santé. Dieu garde le souvenir aussi de ce qu'il vous en a coûté et de ce que coûte votre fidélité à l'Éternel. Sur cette idée, j'ai pensé ce matin que Il y a dans notre Église, ne serait-ce que dans le service de notre culte dimanche après dimanche, un certain nombre de personnes qui s'investissent et qui sont peut-être déçues du manque de reconnaissance qu'on peut leur manifester, qui ont peut-être le sentiment qu'on s'est tellement habitué à leur service que depuis longtemps on l'a oublié. On ne vous dit plus merci, comme on dit merci à celui qui a prêché, qui est venu là en visibilité sur la chair à la sortie. Dieu garde le souvenir de votre service. Ça n'exclut pas le fait que nous aussi, nous ayons cet esprit de reconnaissance vis-à-vis de chacun d'entre vous. Et j'aimerais ce matin particulièrement, avant de poursuivre avec la prédication, vous dire vraiment notre reconnaissance et au nom de toute l'Assemblée, pour vous tous qui êtes à l'entrée, qui nous accueillez avec un sourire chaque dimanche, pour vous, quelques-uns qui préparez fidèlement, dimanche après dimanche, la scène. Pour vous qui, le matin, arrivez plus tôt au culte, je ne vais pas mettre des noms, mais vous les reconnaîtrez, et qui prenez un balai pour simplement que la cour soit propre ou que les crottes de chien qui étaient devant la porte d'entrée aient été enlevées. Pour vous qui occupez le service du vidéoprojecteur ou de la sonorisation. Pour vous, les musiciens, mais vous, on vous voit, vous êtes debout devant. Mais pour tous ceux qui... chaque dimanche, rendre un service à l'Église au cours de la semaine. Pour vous qui faites le ménage dans la semaine et qui venez ici tout seul, ce n'est pas la joie, pour venir faire des réparations ou pour nettoyer simplement et faire en sorte que nous arrivions ici et que ce soit propre. Dieu garde le souvenir de chacun de vos services. Et nous vous sommes aussi reconnaissants, même si nous ne le disons pas souvent. Merci vraiment à chacun de vous. Mais on peut le faire et y penser de temps en temps. En lisant ce texte, et surtout si on lit l'ensemble des versets, on a l'impression ici d'une communauté qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre d'une façon harmonieuse. Il y en a un qui travaille à côté de l'autre, il y en a un autre qui travaille à côté d'un autre. Et puis dans la dernière partie, dans les versets suivants, on a ceux qui travaillent après un autre et un autre qui travaille après un autre. On a l'impression d'une communauté vraiment harmonieuse. Et ce n'est certainement pas un hasard, et c'est ce qui m'avait frappé pour le choix de ce texte depuis un moment, que Dieu ait voulu que se répète de façon incessante ces mention à côté d'eux et après un autre. Je les ai mis en jaune ici. À côté d'eux, c'est cité 11 fois, si je ne me trompe pas, ou 12 fois. Après eux, c'est cité 14 fois. Ces deux formules évoquent une collaboration qui est efficace de toute une communauté qui est unie également. Et il n'est pas étonnant que finalement, cette communauté à l'œuvre n'est mis que 52 jours pour construire ces murailles de Jérusalem avec ses tours, avec ses murs, avec ses portes. Et il y a là, et ça mériterait d'être un peu plus développé, tout un symbolisme à propos de l'Église, puisqu'on se place sur ce parallèle. Lorsque nous construisons l'Église, la vigilance, la séparation d'avec le monde, et puis aussi les portes, pour la connexion avec notre société, l'ouverture pour que des gens viennent et entrent. Mais bon, ce n'est pas le propos de mon message. Quand on rentre un peu plus dans le détail de ce chapitre 3, en fait, on va se rendre compte que travailler à côté d'eux, c'est une collaboration qui suscite parfois des ailes remarquables qui sont énumérées ici, mais parfois aussi un certain nombre de frustrations. Et je vais simplement vous citer très rapidement, pour ne pas faire un commentaire extrêmement détaillé de ce texte et tirer d'autres leçons, c'est que ce texte nous montre, et c'est le premier cité, le souverain sacrificateur, nous montre des leaders, serviteurs qui sont crédibles. Il est le premier cité à l'œuvre, celui qui devait servir dans le culte du temple déjà construit. Il est sorti de son temple, il est allé sur les murs pour faire le maçon, pour empiler des pierres. Quelle crédibilité auraient dans l'Église des leaders qui se contenteraient de commander sans donner d'exemple, sans se mettre eux-mêmes au travail, y compris parfois dans le domaine pratique, parce qu'il n'y a pas aux yeux de Dieu de séparation entre le spirituel et le temporel et le séculier. Être serviteur, c'est l'être jusqu'au bout. Et Jésus-Christ, parce qu'on va se référer très souvent à Jésus-Christ dans cette prédication, il a lui-même donné l'exemple, lui qui était venu pour enseigner, former des disciples. Il s'est mis à leurs pieds, il a lavé les pieds de ses disciples. Et on a l'exemple ici de ce qu'est un leader serviteur véritablement crédible. Il y a dans ce texte des témoignages de zèle vraiment qui sont sans réserve. Dans deux versets, on s'aperçoit que certains sont cités deux fois, parce qu'ils ont fait double tâche. Et en même temps, on a une petite mention dans le verset 5, si je ne me trompe pas. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, c'était un clan familial, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Dans une communauté en œuvre, il y a ceux qui font double job, mais il y a aussi ceux qui n'en font pas du tout, parce qu'ils ont choisi de ne pas se soumettre. On voit ici aussi, dans le domaine du zèle, qu'il y en a qui ont fait abstraction de l'âge. Il y a des personnes qui sont citées ici, qui étaient déjà citées dans le livre d'Esdras dont on parlait tout à l'heure, qui avaient déjà participé, et ils étaient listés pour avoir participé à la construction du temple. Et ils sont à nouveau à l'œuvre dans la construction des murailles de Jérusalem. Je ne cite pas les versets. Il y a aussi celui qui a fait travailler ses propres filles sur le chantier. Il n'y a pas d'abstraction, il n'y a pas d'exception d'âge ou de sexe pour entrer dans une collaboration efficace au service du Seigneur. Toujours dans ce domaine d'un zèle qui est admirable, il y a ceux dont le métier habituel était d'être orfèvre ou parfumeur. On le voit au verset 8 et au verset 11. Verset 8 et le verset 31, pardon. Après lui travailla Malchija entre les orfèvres, et ils travaillèrent aussi à la construction de la muraille. Je ne vous dis pas l'état des mains après, mais bon, c'était un détail. Ils travaillaient, pour certains, à la porte du fumier, dans le texte. Verset 13. La porte du fumier, c'était une des portes de la muraille de Jérusalem qui donnait sur la décharge. À côté de ça, il y en avait d'autres qui travaillaient à côté de la porte du temple. Là encore, faire abstraction de ses préférences. Et puis, il y en avait qui travaillaient vraiment pour la communauté. Ils venaient de l'extérieur. Ils n'étaient pas concernés par ces murs de Jérusalem, si ce n'est pour protéger le temple dans lequel ils venaient célébrer un culte. Ils étaient complètement hors de la ville. Et ils venaient pour aider leurs frères et sœurs qui étaient dans la ville de Jérusalem. Alors que d'autres, il est mentionné à plusieurs reprises, qu'ils travaillaient devant leur maison. Il y en a même un pour qui il est dit qu'il travaillait devant sa chambre. C'est tout. C'est-à-dire, je fais le boulot, mais je le fais parce que je suis le premier intéressé. Et il y a donc dans la collaboration des altruistes, et il y a ceux qui le sont moins. Parce que la collaboration, et on en fait rapidement l'expérience, elle est révélatrice du vrai fond de chacun. Dès que l'on met une communauté humaine en œuvre, que ce soit l'Église, je vais parler essentiellement de l'Église, mais on pourrait tenir exactement le même discours pour un couple, on pourrait tenir le même discours pour une famille. Dès que l'on met une communauté en œuvre, on l'amène à collaborer, se manifeste le fond vraiment du cœur de chacun. La réalité du caractère, les qualités et les défauts. Pour les uns, c'est le don de soi, c'est l'altruisme, c'est le zèle débordant, c'est la soumission véritablement délibérée et facile. Et pour d'autres, au contraire, eh bien, c'est la paresse, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est le moindre investissement, le manque de persévérance. Il y a ceux qui sont prêts à tout faire. Et puis il y en a d'autres qui sont très sélectifs, qui vont faire des choix vraiment particuliers. Il y a ceux qui se soumettent avec plaisir et ceux qui résistent et ne peuvent entrer en collaboration que lorsqu'ils sont en pleine direction eux-mêmes des opérations. L'expérience m'a montré dans la vie d'Église que c'est souvent extrêmement révélateur de l'authenticité de l'esprit de service que de savoir collaborer en toutes circonstances. J'ai la maîtrise des choses ou je ne l'ai pas. Je dois me soumettre ou j'ai la conduite des choses. Dans tous ces domaines se manifeste véritablement le fond du cœur de chacun. Et quand on est témoin de cela, comment faut-il réagir ? Créer des tensions ? Se charger d'amertume ? Se diviser peut-être même ? L'Écriture nous montre dans le Nouveau Testament quelques exemples de collaboration pas forcément réussies. Et dans Actes chapitre 15 en particulier, on a le récit d'une collaboration que l'apôtre Paul avait espérée heureuse avec un dénommé Jean-Marc, mais qui ne l'a pas véritablement été. Dans ses voyages, au travers des visites rendues aux églises, aux villes où il amenait des âmes au Seigneur, Jean-Marc l'avait abandonné en route. Et l'apôtre Paul a dû mettre fin à une collaboration. Jean-Marc n'avait pas joué le jeu de travailler à côté de quelqu'un. Il avait fait défaillance. Mais cette rupture de collaboration, elle n'a été que momentanée pour l'apôtre Paul. Parce qu'on voit quelques années plus tard, lorsque probablement ce Jean-Marc a mûri dans la foi, dans l'expérience de la vie, de la collaboration, il l'a repris avec lui dans le service. La collaboration comporte toujours un coût. Supporter sans amertume les défections, les lacunes des autres. Prendre conscience des réelles limitations de certains, dont on attendrait peut-être beaucoup, mais qui ne peuvent pas, et on n'a pas compris pourquoi. Rappelons-nous que Dieu voit tout, comme on l'a dit tout à l'heure. Il garde le souvenir de tout. Et parfois, Dieu est attentif plus à notre manière d'œuvrer pour lui qu'au résultat de notre œuvre pour lui, qu'au produit de notre travail. Il y a quelques mois, j'avais donné une prédication sur un texte de Jacques qui parle, dans le chapitre 3, de la notion de zèle amer. On peut mettre une énergie dans notre investissement qui va être blessant pour ceux qui nous côtoient, parfois. Réaliser que Dieu a voulu l'Église pour que précisément nous vivions parfois ces frustrations, dans le but de réformer notre caractère, notre impétuosité, notre impulsivité, notre incapacité à faire preuve de patience. C'est la vocation de l'Église. Et avant même la collaboration, l'Église est une communauté de communion. Quand on parle de ce terme à côté, un tel à côté de l'autre, ça évoque bien sûr le travail ensemble, on se serre les coudes, mais ça évoque surtout aussi le fait que quand vous regardez à droite et à gauche, celui qui est assis sur le même banc que vous, ce n'est pas un étranger. C'est votre premier prochain que le Seigneur vous demande d'aimer. L'Église a été voulue pour qu'elle soit une communauté d'apprentissage en vue de la collaboration dans le service, en vue de la communion, en vue que par cette collaboration les uns avec les autres et cette communion les uns avec les autres, par l'amour que nous avons les uns envers les autres, le monde soit frappé. Jésus-Christ a été un modèle de maître collaborateur. Il avait autour de lui 12 disciples. Ils ont vécu 24 heures sur 24, pendant 3 ans à peu près ensemble. Et Jésus a fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de bienveillance, de pédagogie, de renouvellement de sa confiance après des déceptions vis-à-vis de ses disciples. Il a fait preuve aussi parfois de fermeté et de vérité à leur égard, parce qu'il y en avait besoin. Mais il a toujours fait tout cela avec amour. Et Jésus a inclus dans sa pédagogie cette volonté de leur apprendre d'être à côté les uns des autres. Ils allaient constituer l'Église à venir. Ils allaient devoir apprendre à se serrer les coudes, à être solidaires, à ne pas se tirer dans les pattes, à ne pas avoir des jalousies. Et on connaît tous ces épisodes, on les revoit, on les entrevoit derrière ces mots. Dans les évangiles, lorsque Jésus a eu besoin de les secouer, leur dire « Mais voilà, vous allez vivre ensemble et vous allez constituer l'Église et vous allez devoir être des modèles dans le service et dans la communion les uns avec les autres. La parole de Dieu ne présente pas moins d'une trentaine d'exhortations avec le terme « les uns et les autres ». Nous avons besoin de réaliser que ceux qui sont ici présents dans cette salle ce matin sont tous les autres des uns et que nous sommes les autres des uns aussi, réciproquement. Et que nous avons besoin de nous imprégner de cette réalité. Nous ne venons pas ici et nous sortons comme des étrangers. Ce n'est pas ça l'Église que le Seigneur a voulu. Un frère qui arrivait depuis très peu dans l'Église participait d'une façon spontanée, sans qu'on le lui ait demandé, à l'accueil des uns et des autres, précisément, qu'il ne connaissait pas tellement encore, mais il avait cette démarche intentionnelle d'aller vers les autres simplement pour les saluer, les connaître, parler avec eux, les aimer en somme, quoi. Je lui disais que j'étais émerveillé par son attitude. Il me disait, mais je ne comprends pas que tu sois émerveillé. Pour moi, c'est naturel, quoi, au fond de moi-même. Merci Seigneur d'avoir créé cet état d'esprit dans le cœur de ce frère et de plusieurs d'entre nous ici également. A contrario, je suis parfois vraiment profondément consterné de voir tel ou tel dans l'Église, peut-être depuis même des années, qui est capable dimanche après dimanche de vous bousculer pratiquement, quasiment vous marcher sur les pieds sans même vous saluer. Il y a quelque chose qui n'a pas percuté dans la tête, là, ou dans le cœur plutôt. Nous sommes une communauté des uns et des autres, de prochains réciproques, de gens à côté les uns des autres. Et quand on lit dans ce texte cette répétition successive qu'ils travaillaient à côté, 12 fois au moins, eh bien, il y a là un message qui nous est délivré. La communion, la collaboration, c'est quelque chose que Dieu veut véritablement créer dans notre cœur pour que nous puissions vivre vraiment dans la communauté, la réalité de l'amour de Christ. Et ça commence peut-être par simplement une salutation le dimanche matin que nous essayons de délivrer au maximum de personnes. Nous sommes nombreux. Mais si nous avons cette intention, nous pouvons manifester quelque chose d'autre que l'indifférence à celui qui est assis à côté de notre banc, qui peut-être pendant une partie du culte a pleuré sa souffrance. Et nous allons partir sans même nous en être inquiétés. Il y a quelque chose d'anormal là. J'en viens à la deuxième partie du texte. C'est drôle comme le texte a été partagé dans le registre simplement qui pourrait nous paraître qu'un compte-rendu de réunion de chantier un petit peu. Voilà. Là, il y en a un qui travaille à côté de l'autre. Donc, dans le texte, il y a la moitié du texte, c'est des gens qui travaillent à côté. Dans l'autre moitié du texte, c'est des gens qui travaillent les uns après les autres. Vous allez me dire, c'est à peu près pareil. Oui, c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes notions, mais il y a quelque chose de différent. Jésus a effectué son ministère après celui préparatoire de Jean-Baptiste. Jésus en était conscient et il en était profondément reconnaissant qu'il y ait eu quelqu'un avant lui. Et il reconnaissait en Jean-Baptiste le plus grand des prophètes. Et en même temps, Jean-Baptiste était conscient que lui succéderait quelqu'un après. Que Jean-Baptiste n'avait pas pour vocation à couler dans le béton pour l'éternité, son empreinte, son message, son action auprès du peuple d'Israël, mais que celui qui comptait, c'était celui qui venait après. Et Jean-Baptiste disait, je ne suis même pas digne de lui délier les chaussures. Et il disait aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelle leçon ! Un qui comprend qu'il est venu avant et qu'il y aura un après. Un qui est venu après, mais qui comprend qu'il y avait un avant. L'un et l'autre vivaient cette notion de succession, paisiblement, dans une humilité réciproque. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul, c'est au chapitre 3, déclarait « J'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. » Et il ne mentionnait même pas un troisième, qui est celui qui allait moissonner. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont œuvré avant, ils n'ont pas vu les fruits. Mais ils n'en ont pas été frustrés, parce qu'ils savaient quel était le maître, ils savaient pour qui ils travaillaient. Il y en a qui sont venus après, et ils n'ont pas eu d'orgueil non plus, parce qu'ils savaient que d'autres avaient travaillé avant. Vous voyez cette notion d'enchaînement, que personne ne se glorifie, toute la gloire revient à Dieu, c'est lui qui a fait croître. Et en cela, il reprenait un autre des enseignements de Jésus à ses disciples, qui citait un proverbe commun dans ce pays agricole. L'un sème, l'autre moissonne. Celui qui sème, il ne voit pas la moisson. Mais les deux, Jésus disait, se réjouissent ensemble. Il y en a un qui voit les fruits, l'autre ne les voit pas, mais il a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait les fruits. Mais cet enchaînement, cette interdépendance où personne n'est autonome, où tous nous sommes redevables mutuellement. Qu'on le veuille ou non, on est tous héritiers de quelque chose. Héritiers de nos parents, parfois pas toujours de façon glorieuse, mais on est héritiers aussi à titre collectif et en tant qu'Église, par exemple. Nous sommes héritiers aussi d'un passé. Nous sommes bénéficiaires de ceux qui ont fait avant nous, même en remontant très très loin. Nous sommes tributaires de leur héritage. Nous sommes tributaires de leur transmission. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui le transmettront aussi à d'autres. » Et il pose là un peu cette espèce de chaîne de solidarité dans les générations qui fait qu'aujourd'hui, 21e siècle, nous avons l'Évangile en main et nous avons encore devant nous les enseignements de l'apôtre Paul qui se sont transmis. Et chaque génération a eu conscience d'être une génération d'après, qui travaille après d'autres, avec reconnaissance pour ce que ceux d'avant ont fait, et aussi avec ambition pour ceux d'après feront ce qu'ils transmettront à d'autres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dans le monde, on entend souvent cette expression « je me suis fait tout seul ». Comment tu t'es fait tout seul? Quelle prétention, quel orgueil que de dire cela. Et on entend aussi parfois, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que toute la gloire m'en revient à moi. Quelle pensée de notre siècle, tellement contraire à la pensée de l'Écriture. Nous sommes tous dans une redevabilité mutuelle qui nous impose une chose, surtout, l'humilité et l'amour les uns pour les autres. Une autre pensée. Il y a quelques années, on m'avait demandé de prêcher dans un congrès d'église du sud de la France sur le thème que l'on avait donné, qui m'avait un petit peu rendu perplexe au départ, mais paru très intéressant après, modernité ou tradition, avec un grand point d'interrogation et trois points de suspension. C'est-à-dire qu'il faut choisir entre les deux. Je ne vais vous citer que deux textes que j'avais mentionnés parmi d'autres. Dans l'Ecclésiaste, c'est le même Salomon qui a écrit d'ailleurs toutes ces paroles. C'est intéressant. Ce qui est aujourd'hui a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Rien de nouveau sous le soleil, Dieu ramène ce qui est passé. À notre orgueil, nous qui croyons peut-être réaliser l'œuvre de notre vie, je parle là encore peut-être de l'Église ou de la famille ou dans notre profession, pensant poser vraiment les fondements d'un monde nouveau, nous croyons être des supernovateurs, des hommes providentiels, avoir découvert vraiment la panacée ultime, ce à quoi personne n'avait pensé auparavant, qui va bouleverser la vie de l'Église, par exemple. Nous avons besoin de nous rappeler que l'histoire de l'Église nous apprend que l'histoire ne fait toujours que se répéter. Les erreurs d'aujourd'hui ont déjà été faites dans le passé, c'est intéressant de le voir. Les fidélités d'aujourd'hui ont déjà été des fidélités dans le passé. sous d'autres formes, bien entendu. Rien de nouveau sous le soleil. Ne bradons pas trop vite l'expérience de ceux dont nous sommes les chrétiens d'après, de ceux qui nous ont précédés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il y a toute une liste, ce qu'on appelle la liste des héros de la foi, qui rappelle ceux qui ont accompli des choses par la grâce de Dieu et qui ont été remarqués à cause de cela, mais par la grâce de Dieu. Et nous sommes appelés à être leurs imitateurs. Ne bradons pas le passé. Mais loin de nous aussi de penser que le passé a toujours été mieux que le présent. Et c'est le deuxième texte de l'Ecclésiaste que je vous citais dans chapitre 7, verset 10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ce regard constamment braqué sur le passé, en pensant que le passé était plus sain, était plus beau, était plus pur que le présent, c'est la même erreur que de penser que le présent ou même l'avenir est aussi plus beau, plus pur et plus merveilleux que le passé. Le Seigneur nous appelle à recevoir cette immense leçon d'humilité, de modestie, à savoir que nous sommes appelés à vivre pleinement ces deux facettes de l'Église, celle du présent où nous sommes à côté les uns des autres, appelés à collaborer ou au moins à être en communion. Et cette autre facette, c'est que nous sommes tous, les uns et les autres, des frères et des sœurs d'après d'autres frères et sœurs qui nous ont précédés, qui nous ont légué un héritage dont nous sommes bénis, et que nous sommes les frères et les sœurs de ceux d'après qui nous succéderont, à qui nous sommes invités à donner un modèle d'amour, un modèle d'humilité, en étant, et cela met tout le monde d'accord, reconnaissant à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait croître. Terminé, je vous cite simplement ce verset de l'apôtre Paul. Nous sommes ouvriers avec Dieu, à côté. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça, c'est là, l'avant. Et un autre après, bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen.